chagrin, bye bye déprime avec sa gueule d'aspirine, bye bye. Amen, amen. Merci les musiciens, Dieu vous bénisse. C'est bon de chanter, vous louez le Seigneur. Vous le savez peut-être pas, mais nous avons passé une semaine difficile puisque nous avons perdu un très 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 cher ami, notre ami Philippe Clair, qui en plus d'être un ami était un frère, en plus d'être un ami, un frère, était notre conseiller juridique et fiscal, un homme remarquable, droit, qui était extraordinaire pour nous, pour notre communauté, qui nous a toujours aidés gratuitement, parce qu'il nous aimait, et voilà, il est parti subitement, et il a laissé Catherine, son épouse, et Paul-Henri, et son fils. Et voilà, nous sommes bien sûr contents pour lui parce qu'il est vers le Seigneur, mais quand même, de penser qu'on ne le verra plus, qu'on ne verra plus son petit sourire malicieux, qu'on n'entendra plus ses petites moqueries rigolotes, parce que bon, il nous charriait souvent, parce que bon, on n'est pas des lumières dans toutes ces choses où lui s'y connaissait tellement bien et il nous aidait tellement facilement parce que pour lui, toutes les lois, il les connaissait par cœur. Et voilà. Et alors nous, non, ben, ce n'était pas notre métier, ce n'était pas notre truc, mais il était tellement surpris de voir comment Michou avait travaillé pendant toutes ces années, comment tout était en ordre et comment tout était bien fait et comment la comptabilité était tenue. Il a été un ange de Dieu pour nous. Il nous a aidé vraiment, un envoyé de Dieu pour nous. Et hier, j'étais avec Michou au cimetière et il y a eu beaucoup de témoignages. Et c'était un homme qui n'était pas sectaire. Il avait beaucoup d'amis dans toutes sortes de milieux religieux. Et il y avait là un homme, je crois, il s'appelle, je sais plus comment. Il a dit, si on chantait un Ave Maria. Et ça a fait rire tout le monde parce que notre frère était protestant. Et sa femme a dit, ah ben, s'il nous voit, ça va le faire rire. Mais vous voyez, des gens détendus, des gens extraordinaires. Pardon, chérie? Je n'ai pas compris. C'était pas l'Ave Maria, c'était Je vous salue, Marie. Mais voilà, donc, tout était spécial, comme lui était spécial. C'était un homme vraiment spécial. Et c'est grâce à Lucas que nous l'avons rencontré, puisque Lucas a rencontré son fils à l'école. Ils sont devenus très, très amis. Et un jour, je ne sais plus comment ça s'est passé, les parents sont venus ici, et puis ils ont vu qu'on avait un parc, et ils ont dit, mais vous pourriez mettre des ruches. Donc ils sont venus, et bon, je dis, mais qui c'est ce petit monsieur? On dirait Colombo avec son imperméable. Et petit à petit, on a appris à se connaître. C'est lui qui nous a offert le billard qui est derrière moi là. Et tant de choses, et tant de gentillesse, surtout beaucoup, beaucoup de gentillesse, et d'efficacité. Vraiment, on est allé à l'église. La communauté du sanctuary est allée, les autres ne sont pas venus. Bon, voilà, nous étions bouleversés par les témoignages, les chants. C'était très sobre, très beau, comme il aurait aimé, je crois. Voilà. Bien, c'était une semaine un peu difficile. Mais en même temps, nous savons que nous n'en avons plus pour longtemps. Jésus revient bientôt, donc on le reverra bientôt, notre frère Philippe. Amen. Amen. Vendredi soir, je vous parlais de l'amour divin, de l'action de Dieu dans son Église, qui ôte la balle, c'est-à-dire, on peut dire en quelque sorte, le masque, de ce qui masque notre vraie apparence, notre vraie réalité. Le grain, vous savez, il est entouré d'une peau qui s'appelle la balle, et Jésus vient, et il vient avec son vent à la main, et il tape dessus. Alors les gens s'imaginent, n'est-ce pas, des choses au sujet de l'amour de Dieu. Bien sûr que Dieu est amour, mais par amour, de temps en temps, ben, il y a des souffrances. Ce matin, j'ai noté une phrase, d'ailleurs je l'ai envoyée à Catherine, parce que je l'ai trouvée très très belle. Je vais vous la lire. C'est une phrase qui dit « La coupe de douleur que Dieu apporte, bien qu'elle brûle les lèvres, a été faite de l'argile que le potier a mouillée de ses larmes sacrées. » Ce n'est pas avec joie que le Seigneur nous, non pas nous châtie, mais nous aimons, élague, n'est-ce pas? Il moule le grain pour en faire de la farine, il pétrit ensuite et il fait cuire et tout ça. Ce sont des souffrances qui sont dans l'Église. On ne les vit que dans l'Église. Ce n'est pas des souffrances qu'on vit à cause des choses du monde, on les vit dans l'Église. Et quand vous souffrez dans l'Église, ne croyez pas que c'est Dieu qui est en train de passer ses nerfs sur vous. Ne pensez pas que forcément il vous punit, il n'est pas en train de se venger, il n'est pas méchant, Dieu n'est pas méchant, c'est pour notre bien. Et nous étions d'accord dans notre vie prémortelle pour venir passer toutes ces choses et vaincre la chair afin de glorifier son nom. Jésus est le pain descendu du ciel et nous, il est en train de nous transformer en pain qui allons monter au ciel et nous serons tels qu'il est. Amen. Donc, il faut que nous ayons tous ces attributs et pour pouvoir avoir tous ces attributs, eh bien, c'est nécessaire que nous soyons libérés de tout ce qui est la chair. Amen. Alors les difficultés de notre vie ne sont pas forcément des punitions, mais c'est souvent des élagages nécessaires. L'élagage fait partie de l'amour divin en action. Alors ça occasionne des souffrances, certes, et les jugeurs, les amis de Job, pensent qu'on est puni de Dieu. Bon, on s'en fout de ce qu'ils pensent. Amen.
Amen.
Dis-je, m'en fous de ce qu'ils pensent. Dis-le.
Je m'en fous de ce qu'il
Ah,
pense.
là, je m'en fous de ce qu'ils pensent. Les amis de Job, bon, tout ça a toujours été. Quelque chose leur a échappé dans ce que c'est que l'amour divin. Ce qu'ils cherchent dans l'amour, c'est ce que je vous disais vendredi, c'est la paix. Ce qu'ils cherchent dans l'amour, c'est le plaisir. Mais Dieu nous donne tout cela, mais au milieu aussi de souffrances. C'est normal, c'est la dichotomie, je vous en ai déjà souvent parlé, ça fait des années que je vous le chante, vous le savez. Quelqu'un disait un jour, je suis triste, et il mesurait sa tristesse par rapport à la joie qu'il pouvait connaître de temps en temps. Il disait, la tristesse est plus grande que la joie. Et puis un autre qui lui a dit, non, tu te trompes, c'est la joie qui est plus grande que la tristesse. Rappelle-toi de tes moments de joie. Et il y a un sage qui est arrivé et qui les a repris tous les deux en leur disant la vérité, c'est pas ça. Ici-bas, la joie et la tristesse viennent ensemble. Et si l'une est assise à ta table, n'oublie pas que l'autre est endormi dans ton lit. Et j'ai trouvé cette phrase aussi très très belle. Et je vous la donne parce que ça fait penser, ça fait réfléchir. Et puis on s'aperçoit que c'est vrai, rien ne vient jamais tout seul. Vous ne pouvez pas avoir une joie toute pure, toute propre. Ce n'est pas vrai. Il n'y a rien de complet ici-bas sur Terre. C'est toujours entaché par une tristesse, par un chagrin. Mais nous sommes vainqueurs et plus que vainqueurs, et puis nous avons une espérance, pas seulement la foi et l'amour, mais une espérance, c'est que bientôt nous allons quitter cette terre. Et puis là, plus de souffrance, il essuiera toutes les larmes de nos yeux et de nos cœurs. Vous savez, même au sujet du Saint-Esprit que nous avons reçu, nous ne goûtons qu'aux prémices de l'Esprit. Hein? Il faut vraiment être très orgueilleux pour penser qu'on en a une parfaite plénitude. Alors, je vous parlais de l'amour de Dieu. Et quand je regarde les gens et quand je regarde ce que la plupart appellent la liberté, je crois que là aussi ils se trompent. Je pense qu'ils ne parlent pas de liberté, mais ils parlent de libertinage. C'est autre chose. Hein? Qui sont ceux qui veulent être libres et pourquoi veulent-ils être libres? Pour se laisser aller à la paresse, pour se laisser aller au plaisir, pour se laisser aller à leur passion, à faire ce qu'ils veulent. Quand ils veulent, quitte à bousiller la vie des autres, c'est ça la liberté? Non, c'est pas ça. En vérité, ceux-là ne sont pas libres, mes frères et sœurs. Ils sont esclaves. Et c'est pourquoi nous devons avoir pour eux une pitié mêlée de crainte. Parce qu'ils peuvent être dangereux, mais quand même nous devons avoir pitié. La véritable liberté, elle ne s'obtient pas en s'affranchissant de toute contrainte. C'est comme l'amour. On ne s'affranchit pas de toute contrainte dans l'amour. Il y a des contraintes dans l'amour. Hein, quand un homme, une femme sont mariés, on sait bien, il y a des contraintes. Et maintenant, aujourd'hui, eh bien, les gens ne veulent pas, n'est-ce pas, quand il y a quelque chose qui ne va pas, ben plutôt que d'affronter les difficultés et puis de faire des compromis par amour, eh bien non, ils préfèrent divorcer, se séparer, rompre les alliances et tout. Bon, ben, c'est comme ça. C'est le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, nous ne faisons pas comme ça dans l'Église de Jésus-Christ. Amen. Et ce que je vous disais vendredi au sujet de l'amour, eh bien, cette vérité s'applique aussi à la liberté. La liberté, elle s'obtient en se faisant serviteur. Ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. La seule question, C'est oui, mais serviteur de qui? C'est ça la seule question. Serviteur de qui? Il y a beaucoup de paraboles de Jésus qui parlent de maître et serviteur. Je voudrais qu'on lise ce matin un texte dans 1 Corinthiens 3, 8, 11. C'est l'apôtre Paul qui parle, et il parle de sa position de serviteur de Dieu en tant que ministre. Mais nous sommes tous des serviteurs de Dieu, évidemment, mais nous ne sommes pas tous ministres. Amen. Ce n'est pas parce qu'on a du baratin pour vendre sur les marchés qu'on est un serviteur de Dieu. Bien sûr que celui qui sait parler, c'est plus facile pour lui. Mais rappelez-vous que Moïse ne savait pas parler. Et quel serviteur de Dieu. Amen. Donc, c'est pas parce qu'on a du baratin qu'on est serviteur de Dieu. Hein. Déjà une chose. Mais on est tous serviteurs de Dieu. Mais là, il parle des serviteurs de Dieu en tant que ministre de la parole. Et il dit, alors 1 Corinthiens 3, 8, je vous lis, il dit, « Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. » Nous sommes ouvriers avec Dieu, ça veut dire quoi? Dieu travaille et nous travaillons avec lui, ce n'est pas nous seuls ou Dieu tout seul. Vous êtes le champ de Dieu, il parle là à l'Église. La construction de Dieu, vous êtes la construction de Dieu. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Alors je pense que vous pouvez reconnaître que le fondement de notre vie communautaire est une bonne chose, bien établie sur les Écritures. Et ça ne pourrait pas exister depuis plus de 30 ans si ça n'était pas bon. Et nous ne pourrions pas nous aimer comme nous nous aimons encore aujourd'hui si ça n'était pas bon. Et si ça n'était pas scripturaire et si ça n'était pas dans les choses de l'amour. Alors il dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a construit dessus. Parce que bien sûr, lui étant apôtre, il s'en allait de lieu en lieu faire ouvrir d'autres choses. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas poser sur le fondement de l'Église les lois de Moïse. Vous ne pouvez pas poser les malédictions de Moïse. Jésus a été fait malédiction à notre place. Maintenant, ça, c'est fini cette histoire. Un jour viendra le jugement, mais ce n'est pas maintenant. Amen. Amen. Mmh. Mmh. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ et sa nouvelle alliance. La nouvelle alliance, son sang qui nous assure sa miséricorde, sa bonté, sa patience. Bien sûr, il châtie aussi celui qu'il aime, mais pas comme un malade mental. Hein. Vous avez jamais vu un père qui inocule un cancer à son fils ou à sa fille parce qu'elle a fait quelque chose qui ne lui a pas plu. Ça ne vient pas de Dieu, le cancer. Ça ne vient pas de Dieu, la maladie. Ne pensez pas que Dieu punit en envoyant des maladies. Ça n'existe pas. Dieu déteste ça et il chasse ça. Il a toujours chassé ça. Et il nous exhorte à le faire aussi. Ce sont des choses mauvaises qui peuvent arriver à tout le monde. Mais voilà, c'est comme la mort. C'est pas, certains disent, ben voilà, Dieu... a repris un tel, ou comme ci, ou comme ça. Par exemple, au sujet de frère Branham, il est mort dans un accident de voiture. C'était bien la preuve, n'est-ce pas, c'est une mort violente, c'était bien la preuve que Dieu était contre lui. Mais faut-il être stupide pour dire des choses pareilles? Faut-il être stupide? Faut-il ne pas connaître Dieu? Ce sont des gens qui construisent une idée de Dieu sur un fondement qui n'est pas celui de Jésus-Christ et de sa nouvelle alliance. Alors, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui était posé, à savoir Jésus-Christ, que l'on construit sur le fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille. L'œuvre de chacun sera dévoilée, le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu, et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Voilà. Et pour le moment, ben, faut pas juger. On peut seulement constater. Hein. On peut seulement constater. Nous sommes serviteurs de Dieu. Ce n'est pas un mot que les gens aiment, le mot serviteur, parce que quand on parle de serviteur, on a l'idée d'un subalterne qui est à la disposition de celui qui l'emploie. Et puis, on sait souvent que les maîtres ne font pas grand-chose. Ce sont les boys qui font, hein, qui travaillent. Les maîtres, ce n'est pas pareil. Regardez, même Jésus le reconnaît. il dit, tu savais très bien que je moissonne là où j'ai pas semé, mais tu avais reçu un talent, tu devais le faire valoir. Tu es exigeant, il exige de nous des choses, n'est-ce pas? Il ne met pas sur nous des fardeaux qu'on ne peut pas porter, mais il met quand même sur nous un joug. Il travaille avec nous, mais il n'a pas à faire ce que nous avons à faire. Amen? C'est certain, c'est certain. Jésus serait-il un maître injuste? Non, il n'est pas un maître injuste. Il travaille avec nous. Nous sommes ouvriers avec Dieu, mais il n'a pas à faire ce que nous devons faire. Il est un bon maître. Et un bon maître, il donne à ses serviteurs le privilège de le servir. Quand vous êtes embauché chez un patron, c'est un privilège qu'il vous fait. Parce qu'il reconnaît en vous des capacités, il voit que vous avez fait des études adéquates, que vous allez pouvoir le servir dans son entreprise et que vous allez pouvoir faire prospérer son entreprise. C'est vrai ou c'est pas vrai? Hein, il ne vous demande pas un curriculum vitae pour voir si vous êtes un incapable en se disant, super, j'espère qu'il est incapable, celui-là, je vais le prendre. Jamais de la vie. Pensez-y, Dieu a des myriades d'anges pour le servir. Qu'est-ce que je pourrais lui apporter de plus? Il faut avoir un peu d'humilité, hein? Avoir un peu d'humilité, c'est nous qui avons intérêt à servir Dieu. C'est nous qui sommes honorés d'être pris à son service. Parce qu'en travaillant pour lui, nous participons à sa vie divine et la vie divine. C'est la lumière, c'est la paix, c'est la force, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la liberté. Pas la liberté de faire ce qu'on veut, mais la liberté de faire la volonté de celui qui est bon, qui est juste. C'est magnifique. Et non pas ce que fait le diable qui détruit, qui divise, qui casse tout, qui est exigeant. Le psaume 116, 16 dit: Ô Éternel, je suis ton serviteur, tu as détaché mes liens. Vous voyez? Tu as détaché mes liens. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que l'être que nous servons, le Dieu que nous servons, n'est pas à l'extérieur de nous, il est en nous. Il existe en nous. Il est ce qui existe de plus grand et de plus noble en nous. Voilà pourquoi en le servant, nous nous libérons. Nous nous libérons de tout ce qui est ténèbres, de tout ce qui est mesquin, de tout ce qui est méchant, de tout ce qui est sale, de tout ce qui est stupide, et surtout de tout ce qui est religieux. Le serviteur de Dieu devient de plus en plus libre et de plus en plus riche aussi. Parce que Dieu a créé tous ses biens pour qui? Pour ceux qui le servent. Il ne te manquera rien. C'est vrai ou c'est pas vrai? Bien sûr que c'est vrai. Nous ne manquerons de rien. Il nous conduit dans de verts pâturages. Il privilégie ses brebis, c'est certain, c'est sûr. Ses brebis, il leur apprend à vivre aussi dans la disette. Mais c'est pas par plaisir, c'est juste pour que nous sachions apprécier l'abondance. Amen. C'est pour que nous sachions apprécier et louer Dieu de pouvoir bénéficier de toutes ces choses merveilleuses qu'il a créées. Il ne les a pas créées pour d'autres que pour nous. Regardez, vous regardez la nature comme c'est beau. Regardez aujourd'hui ce beau soleil. Vous voyez les arbres en bourgeon, c'est magnifique. Dans quelques jours, c'est le printemps. Moi, je n'ai pas vu cet hiver passer, là. Tellement qu'on a eu de choses qui se sont produites, je n'ai pas vu l'hiver passer. C'est la première fois de ma vie. Ça me fait plaisir. Je suis content, je n'aime pas l'hiver. Mais pourtant, l'hiver, c'est quelque chose qui est bien aussi. Hein, c'est Dieu qui a créé ça. Et on pourrait dire, oh, bon, l'hiver, la gadoue et tout. Et non, mais oui, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Mes frères et sœurs, nous devenons de plus en plus libres et de plus en plus riches à condition que ce soit vraiment Dieu que nous servions, lui-même, vraiment. Trop de prédicateurs et de faux prophètes servent leur propre appétit. Ils servent leurs ambitions. Ils aiment se tenir devant les gens et prendre autorité sur eux. Hein? Voilà, ils ont été un peu toujours frustrés dans leur vie et puis voilà que tout à coup, ils peuvent avoir un micro. Oh là là, le micro, c'est quelque chose. Le pire, c'est que pour faire tout ça, ils mettent en œuvre toutes les facultés qu'ils ont reçues de Dieu. C'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave. Et sans s'en rendre compte, à cause de cela, parce que leur motivation n'est pas juste, ils se ligotent eux-mêmes et ils s'appauvrissent parce qu'ils coupent le lien qui les relie à la source. Parce que Dieu ne se laisse pas avoir. N'importe qui peut prendre une Bible et puis se mettre à prêcher. N'importe qui peut prier. Vous avez des païens qui ont des miracles autant que des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois pour les miracles. Il y a des lois pour tout. Et alors, certains ont appris des trucs et ils les utilisent pour se faire mousser eux-mêmes, tout en prétendant servir Dieu. Souvenez-vous de ce que le frère Branham a dit un jour. Dieu lui a fait un reproche. Il lui a dit, regarde ce que tu as fait, tu en as trop dit, tu as trop expliqué, et maintenant tu as créé une bande d'imitateurs. Vous vous souvenez? Une bande d'imitateurs. Voilà, des gens qui imitent. Alors dans un premier temps, ces gens-là, la coupure avec le lien semble ne pas avoir de conséquences. Il leur reste des réserves, quelques boîtes de conserve, hein, je parle aux spirituels là. Et leurs dons, leurs facultés ne disparaissent pas d'un seul coup. Ils ont quelques succès, mais comme de nouvelles forces ne viennent pas alimenter leur vie, puisqu'ils ont coupé le lien, ben peu à peu, psychiquement, spirituellement, et même quelquefois physiquement, ils dépérissent. Parce que ça, c'est une loi qui est vérifiée. Je me rappelle toujours, on avait été avec Tim Challenge à une convention de gitans, et Bill William il y avait des pots de fleurs qui étaient là, et il avait pris une fleur, il a dit, elle est belle, n'est-ce pas? Oui, mais elle est morte, parce qu'elle est coupée. Elle est belle encore pendant quelques temps, mais elle est coupée. Elle va faner, c'est fini. Il n'y a plus de vie qui rentre dedans. Et comment est-ce que vous êtes, vous, là? Est-ce que vous êtes coupé ou est-ce que vous êtes encore lié à la... Parce que celui qui est lié, même il mourrait, il vivra encore. Amen. Il y a quelque chose d'essentiel, mes frères et sœurs, à comprendre. Celui qui se met au service de Dieu ne sert pas quelqu'un d'extérieur à lui-même. C'est pourquoi il ne peut pas perdre sa liberté, sa précieuse liberté d'enfant de Dieu. Au contraire, il la conquiert. C'est le fondement du service dans l'Église de Dieu. Et tant de gens n'aiment pas l'Église, n'est-ce pas? Un problème en plus. Et tant que les humains ne chercheront pas à découvrir et à servir Dieu en eux-mêmes, ils n'auront de Dieu et du service qu'une conception incomplète et déformée, et ils publieront ça et ils attireront à eux des gens de leur espèce qui vont croire ça. Heureusement, il y en a d'autres qui ne croient pas puis qui arrêtent d'écouter. Hein. L'idée du service, l'idée de serviteur, telle que l'a concevée Jésus, ne sera pas comprise ni acceptée que si l'être humain prend conscience que la divinité à servir, elle est en lui-même. Plus tu te mets au service de Dieu qui vit en toi, plus tu entres en communion avec lui. Et peu à peu, eh bien, tu parviens à dissoudre les scories formées en toi par tes pensées orgueilleuses, par tes sentiments d'importance ou tes sentiments de nullité. Il y a aussi des gens qui se sentent tout le temps nuls. Par tes désirs inférieurs. Vous savez, rien ne peut nous donner une idée de ce qu'est Dieu. Rien. Il n'y a rien. On ne peut le comparer à rien. Rien ne peut le définir, excepté ce que nous arrivons à découvrir en nous lorsque nous nous mettons à son service. Parce que là, nous travaillons en communion, en relation avec lui. Alors pratiquement, comment servir Dieu en nous-mêmes? Être serviteur de Dieu, ce n'est pas, premièrement, avoir une carte de pasteur. Mais ils ont été obligés dans les églises de faire ça parce qu'il y a tellement de zouzous bizarres et de zinzins, de déséquilibrés qui s'autoproclament que pour avoir un peu d'ordre, ils ont été obligés, n'est-ce pas, d'en arriver là. Et ça se comprend. D'ailleurs, l'apôtre Paul lui-même parle aussi de lettres de recommandation. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se recommandaient, n'est-ce pas, d'eux et qui n'étaient pas du tout envoyés par eux. Alors, Paul faisait des lettres de recommandation. Voilà, je t'envoie Timothée, il est vraiment un homme de Dieu. Je le garantis, je sais qui il est. Tu peux lui faire confiance, tu peux lui laisser le micro. Moi, c'est fini, hein, le micro, là. C'est terminé. Vous avez vu, deux fois, j'ai fait ça. Vous avez vu ce que ça fait? Chaque fois, ça a fait des divisions. Parce que les gens sont trop faibles et ils se prennent tout d'un coup pour quelque chose parce qu'ils ont un micro. Être serviteur de Dieu, c'est pas avoir une carte de pasteur délivrée par une école. Être serviteur de Dieu, c'est pas avoir un auditoire et un micro. Tant de charnels aiment ça, le micro, ah, le micro. Ils se sentent un peu comme Johnny Hallyday avec le micro. Hein? Être serviteur de Dieu, c'est se mettre au service de tout ce qui existe en nous-mêmes, de plus pur, de plus noble, de plus lumineux. Et c'est donner à tout cela la possibilité de se manifester. C'est ça, être serviteur de Dieu. Et la vérité, c'est qu'il ne suffit pas de vouloir servir Dieu pour être un bon serviteur. Il faut se préparer, il faut apprendre, il faut s'exercer. Même dans la vie courante, c'est comme ça. Le premier venu ne peut pas être un bon employé, c'est pas vrai. Le premier venu ne peut pas être un bon secrétaire ou un bon ministre ou un bon président de la République. Pour ça, il faut qu'il ait étudié, il faut qu'il ait développé certaines facultés, certaines qualités. Il ne suffit pas d'étudier seulement, mais il faut aussi avoir cette expérience, de l'expérience. Avoir prouvé par ailleurs qu'on est capable de faire quelque chose et de tenir jusqu'au bout dans ce qu'on a fait. Moi, je me rappelle quand je voulais me lancer dans le ministère, je voulais arrêter mes études pour pouvoir aller à l'école biblique, et ma mère m'a dit non! Tu es en train de faire un apprentissage en sablier décorateur, tu vas aller jusqu'au bout. Parce que si tu ne vas pas jusqu'au bout, toute ta vie, quand tu auras des problèmes, tu seras malheureux. Tandis que si tu vas jusqu'au bout, toute ta vie, tu pourras dire, j'ai été jusqu'au bout, même que c'était difficile. Ma mère était une femme sage, hein, pragmatique, intelligente. C'est pour ça que je suis si bien. Ah, il y en a bien, il y en a beaucoup de serviteurs de Dieu qui devraient bien avoir des mamans comme ça et non pas des espèces de dindes qui glousent. Ah, mon fils. Développer des qualités, des facultés, à plus forte raison quand il s'agit d'entrer au service de Dieu. Pas de bricoleurs, l'apôtre Paul parle de ça, des bricoleurs de Dieu. Mais l'humilité, c'est pas le fort de tous les riquis qui s'autoproclame serviteur de Dieu. Je prends le mot Ricky parce que c'était frère Branham qui parlait de ça, il parlait de Ricky, c'est rigolo, hein? C'est rigolo. Que fera celui qui ne s'est pas préparé? Combien d'erreurs va-t-il commettre? Combien de gens va-t-il blesser? Hein, ça pourrait être une chanson de Bob Dylan. Combien de gens vas-tu blesser? Combien vas-tu tuer? Nanani nanana. Ah, oui. Et puis il va se croire un bon serviteur de Dieu alors qu'en réalité il restera un serviteur de ses propres maîtres, c'est-à-dire de ses préjugés, de ses partis pris, de ses illusions. Pour être un serviteur de Dieu, il faut faire de son être un endroit réservé à Dieu. Vous me croirez, vous ne me croirez pas, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais il émane de chaque être humain des éléments fluidiques qui servent de matériaux aux entités du monde invisible. C'est pourquoi, je vous le dis, il est important que vous fassiez de votre être un lieu réservé à Dieu, un temple. Dieu ne va pas vous demander de participer à des tâches surhumaines, mais seulement de lui consacrer chacune de vos activités, aussi modeste soit-elle. Pourquoi cela? Parce que c'est afin de contribuer à l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Et tout ce que vous faites, quand vous le faites par amour, contribue à cela. C'est pourquoi servir Dieu, c'est ne pas négliger son prochain. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que la véritable religion consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et de se garder des souillures du monde. Jacques 1, 27. Ce que nous avons fait hier encore et cette semaine en entourant Catherine et Paul-Henri Clerc dans leur affliction, ça c'est la vraie religion. Je ne juge personne. Hein. Simplement, la Bible juge qui a la bonne religion et qui n'a pas la bonne religion. C'est tout. Et je vous montre qui est serviteur de Dieu et qui ne l'est pas. Servir Dieu ne signifie pas négliger son prochain, négliger une veuve qu'on connaît, qu'on a vue, qui venait là deux, trois fois par semaine, une personne qui venait deux, trois fois par semaine, savoir que son mari est décédé, ne même pas lui envoyer un texto, rien. Ça, c'est la vraie religion. Christianisme pour christianisme, je préfère le mien. Vous voyez, il faut savoir mesurer les choses. Servir Dieu ne signifie pas négliger son prochain, celui qui est proche. Ah oui, c'est bien de prier pour les Chinois, ils sont loin, ils ne nous dérangent pas. Le véritable serviteur de Dieu s'efforce de servir Dieu qui vit dans son prochain, dans celui qui est proche, et en particulier dans celui qui est proche et qui est dans la souffrance, même si leur prochain ne pense pas exactement comme lui. Le vrai serviteur de Dieu s'efforce de servir Dieu qui vit dans son prochain, même s'il ne récolte pas de la gratitude. Je crois avoir fait la preuve pendant des années avec cet homme que je laissais prêcher, que je laissais chanter, que je laissais s'exprimer, à qui je laissais l'église pendant des mois, des semaines, quand j'étais loin en Afrique, alors qu'il n'avait pas les mêmes idées que moi. Vous voyez où est la véritable religion? L'apôtre Paul dit « Laissez-moi être un peu fou et vous parler un peu de moi, puisque vous parlez tant de vous. » Le véritable serviteur de Dieu ne se décourage pas. Vous voyez, je lisais hier, 16 personnes tuées ce vendredi, dans un hospice catholique au Yémen. 4 religieuses ont été massacrées par des démoniaques de l'État islamique. 4 religieuses qui savaient qu'elles couraient un risque. Elles le savaient, elles en avaient parlé avec leur évêque. Mais elles avaient décidé de rester pour soigner les malades, quoi qu'il arrive, parce que ça faisait partie de leur spiritualité. Ça, c'est des chrétiennes. Amen. Hein, les catholiques, c'est des chrétiennes. Oui. Servir Dieu qui vit dans les veuves, qui vit dans les orphelins, qui vit dans les malades. C'est ça la vraie religion. Voilà ce que la Bible dit. Ce que nous faisons dans les pays francophones avec Nicolas Savadogo, c'est ça la vraie religion. Faire des forages, créer des orphelinats, ouvrir des écoles, des dispensaires. C'est ça la vraie religion. S'occuper des veuves, des orphelins, donner à manger à ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif, c'est ça la vraie religion. Ça ne consiste pas en paroles, mais en puissance, pas simplement en puissance miracle, mais en puissance d'intelligence et de pragmatisme. Oh, j'arrive pas à le dire. Pragmatisme. C'est tout autre chose que de se placer derrière un micro pour parler des jugements de Dieu qui fondent sur les femmes qui osent servir Dieu dans l'Église en prenant des responsabilités. Comme si les femmes n'avaient pas le droit de servir Dieu. Vous qui connaissez ce que nous vivons, vous savez de qui je parle là. Je regardais les oiseaux l'autre jour, je me disais, mais les oiseaux mâles et les oiseaux femelles, Dieu leur a fait des ailes et les deux volent. Hein. Il n'a pas dit les mâles peuvent voler, mais pas les femelles. Ah, mais dans l'Église, c'est autre chose. Non, dans l'Église, ce n'est pas autre chose. C'est dans la fausse religion, dans la bigoterie que c'est. Tout est tordu. Est-ce que vous vous rendez compte que ces gens-là, ces riquis, ont traité de Jézabel, mon épouse, qui lave leurs culottes et le reste depuis des années, ici à la communauté, qui fait la comptabilité, qui s'occupe de gérer les biens, eux seraient incapables de le faire. Et elle le fait avec une rigueur qui est reconnue par des hommes et des femmes de loi, par des comptables, par des juristes. Ils l'ont traité de Jézabel. Et moi, ils m'ont traité d'efféminé, moi, son mari, parce que on me taxe d'efféminé, et on taxe d'efféminé tous les pasteurs qui se font aider par leurs femmes. Est-ce qu'ils ont lu la Bible, ces gens? Est-ce qu'ils l'ont étudié? Comment? Quel est leur professeur? Qui c'est ce professeur? Je le fuis. Des petits riz qui ne vaut rien, qui n'ont jamais rien fait que du vent, et qui se permettent de juger des servantes de Dieu, des serviteurs de Dieu. Pardonnez-moi. Non, ne me pardonnez pas, je vais le dire. Moi, mon mentor, celui qui m'inspire, c'est T.L. Osborne. Et T.L. Osborne se faisait aider par Daisy, son épouse. C'est un efféminé, Osborne, aussi. Et sa femme, c'est une Jézabel, aussi. Ce Ricky-là. Ben, évidemment, il ne va pas pouvoir leur dire. Osborne et Daisy sont partis dans la gloire, maintenant. T.L. Osborne, un efféminé. Ah oui, ces efféminés qui prennent soin de leur apparence. Ben évidemment qu'on prend soin de notre apparence. Dieu nous a donné une apparence, on n'a pas le droit de se laisser aller à devenir des grosses vaches mal habillées qui puent. On doit se soigner, on doit faire attention à notre apparence. Et je ne m'excuse pas, je vomis la religion de ces ricky brasseurs de vent. Je vomis leur christianisme archaïque. Paul dit aux Corinthiens, « Je prendrai connaissance, non des paroles, mais de la puissance de ceux qui se sont enflés d'orgueil. En effet, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. » 1 Corinthiens 4,18. Et moi, Michel Janton, je dis la même chose. « Je prends connaissance, non des paroles, mais de la puissance de ceux qui radotent comme ça. » Ô Seigneur, en ce moment, je suis fatigué de tout ça. En tout cas, je sais une chose, c'est qu'aucune entité maléfique, archaïque, moyenâgeuse et rabbinique, obtuse, ne peut m'utiliser. Impossible. Vous vous souvenez du film Yentl avec, comment elle s'appelait l'actrice? Barbara Streisand, je crois. Regardez ce film, Yentl. Je me rappelle, on l'avait regardé en communauté. Même le Ricky regardait ça, il disait, ah, c'est formidable. Et maintenant, il a tout changé. Pourquoi? Quel esprit l'a fait changer comme ça? Non, moi je suis un lieu réservé à Dieu. Il n'y a personne d'autre qui va rentrer. Aucun de ces esprits religieux. Mes frères et sœurs, n'abandonnez jamais cette certitude. C'est en vous mettant au service du Seigneur que vous vivrez librement votre vie. C'est là le pourquoi vous êtes venu ici. Pourquoi est-ce qu'il voudrait vous priver d'une vie qu'il vous a donnée? Non seulement il ne vous en privera pas, mais jour après jour, il vous fera découvrir toutes ses richesses. Vous allez voir. Mais cependant, il ne faut quand même pas s'imaginer non plus qu'en se mettant au service du Seigneur, vous allez avoir une vie paisible, à l'abri des difficultés, des heurts et des souffrances. Comme tous les autres êtres humains, les serviteurs de Dieu, ils ont leur lot, je dirais même plus, comme dirait les Dupont. Je crois que les serviteurs de Dieu sont encore plus éprouvés que les autres. Pourquoi? Parce qu'ils rencontrent tous les fous. Tous les fous de la terre. Jésus l'a dit, hein. Il l'a dit plus gentiment. Il a dit, les pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Les pauvres dans la tête, pas forcément les pauvres matériels, hein. Tous les possédés aussi. Rappelez-vous qu'il n'y a jamais eu plus de manifestations de possédés en Israël que quand Jésus y servait le Père Céleste. Pourquoi ils étaient là, tous ces possédés? Ils étaient là pour perdre le temps de Jésus, pour couper la parole. J'observe que depuis 1968, j'attire tous les dingos qui sont à 10 km à la ronde. Ils viennent pour me faire perdre mon temps, pour me faire perdre patience. Mais heureusement, il y a les anges qui viennent aussi. Il y a toujours l'équilibre. Les anges viennent pour me secourir. Alléluia!
Amen.
Et ils prennent une partie de mon fardeau, les anges célestes, mais aussi des anges terrestres, comme notre frère Philippe Clerc, par exemple. Mais Philippe Clerc sans sa femme, c'est quoi? Hein? Mon Dieu. Et ces anges-là, ces terrestres et ces célestes, eh bien, ils m'aident à supporter mes souffrances. La liberté, c'est de se mettre au service de Jésus-Christ dans son alliance, dans les règles de la nouvelle alliance, pas dans les règles de l'ancienne alliance. Dieu vit en nous, dans notre cœur. Il a toute sa sagesse dans notre cœur, puisqu'il vit en nous. Il a tout son amour dans notre cœur, puisqu'il vit en nous. Mettez-vous au service de Dieu et toutes ces choses-là seront magnifiées, manifestées au travers de vous. Et ne cherchez pas trop à connaître avec des mots ce que vous connaissez par le Saint-Esprit en vous-même. Dieu en vous, c'est un océan qui ne se laisse pas mesurer. On ne peut pas mesurer l'océan. En son temps, quand Jésus était sur cette terre, il parlait des choses de la terre et il disait, mais je vous parle des choses de la terre et vous n'y comprenez déjà rien. Comment vous allez faire quand je vais vous parler des choses du ciel? Et maintenant, il parle des choses du ciel. Hier, nous étions à l'enterrement. C'était une église évangélique protestante et le pasteur a très bien prêché. Et il a dit des choses au sujet de la mort, comment c'est après, on ne sait pas trop. C'était l'enseignement protestant évangélique. Et nous avons reçu des révélations, nous, à ce sujet-là. Donc, moi, je bouillonnais à ma place parce qu'on sait tellement de choses, n'est-ce pas, qu'eux ne savent pas. Et aujourd'hui, Jésus nous parle du séjour des morts, comment c'est, comment ça se passe. Il nous parle du ciel, il nous parle de toutes ces choses. Mais comment voulez-vous que des gens bornés, des espèces de riquis, comprennent quelque chose? Ils disent, j'ai trouvé la vérité. Ils ont pas trouvé la vérité. S'ils étaient humbles, ils diraient, nous avons trouvé une partie de la vérité. Et il y en a encore d'autres. Mais non, dans leur orgueil, ils pensent qu'ils ont tout. C'est effarant. Moi, ça me fatigue. J'ai enseigné des choses profondes ici et quelques-uns m'ont dit, tu nous gaves. Je vous le dis, mes frères et sœurs, personne ne peut vous révéler autre chose que ce qui repose déjà à moitié endormi dans le commencement de votre savoir. Si cela n'y repose pas, c'est que ça doit vous être caché. Pourquoi? J'en sais rien, mais Dieu le sait. Jésus, en son temps, il savait qu'il ne pouvait pas tout dire à tout le monde. Alors plutôt que d'inviter tout le monde à entrer dans le logis de sa sagesse, ben Jésus les a conduits jusqu'au seuil de leur propre esprit. Entrez en vous-même, leur disait-il. Parce que les révélations qui sont données aux uns ne vont pas prêter leurs ailes aux autres. Ainsi, il ne faut pas voir les divisions comme quelque chose de mal, mais comme quelque chose de nécessaire. Chacun se trouve au seuil de son propre esprit. Certains jettent leur filet et ils ont une pêche abondante, alors que d'autres font le même geste et seul l'inutile est pris. Voyez, mes frères et sœurs, je vous aime et je ne cherche pas votre compagnie pour tuer le temps. Je cherche votre compagnie pour vivre des heures productives pour la gloire de Dieu, pour le bien des autres et pour mon bien aussi à moi. J'ai aussi le droit de manger du grain puisque j'ai le devoir de le moudre comme le bœuf et je n'ai pas à être muselé. J'ai le droit de manger ma part. Soyez des serviteurs de Dieu. Faites comme cela, soyez cela, et vous connaîtrez la véritable liberté, la véritable glorieuse liberté des enfants de Dieu. Sinon, vous serez une bande de riquis. Et je ne demande pas pardon d'avoir dit riquis. Très bonne âme, demander pardon, mais recommencer 10 minutes après. Je sais très bien que moi, je serai pareil aussi, donc je ne demande pas pardon. Je dirai Ricky jusqu'au bout de ma vie. Parce qu'il y a des Ricky, puis c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Que Dieu les bénisse, que Dieu les aide, ils peuvent encore se réveiller, c'est peut-être possible. Dieu est Dieu des miracles. On y croit, non? Au miracle. Alors soyons miséricordieux, montrons un bon exemple. Disons la vérité. Soyons vrais, mais soyons aussi amour, tendant les mains, disant voilà, bon, tu as commis une erreur, je pardonne, mais voilà, on ne va pas pouvoir quand même continuer comme ça. C'est pas possible. Il y a des choses, des marques qui ont été dépassées trop. C'est dur, hein, mais c'est comme ça. Quand Judas est allé se pendre, aucun ange n'est venu le secourir. Il s'est pendu, puis voilà. Je pense qu'il y a, il y a des gens, ils vont trop loin. Ils vont trop loin. C'est pas à nous de. On peut intercéder pour eux, mais moi, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Ce serait vraiment un miracle qui me surprendrait énormément. Faisons ce que nous avons à faire. Là, on est en train d'organiser avec Nicolas. Et on va continuer à prêcher l'Évangile, à faire des miracles au nom du Seigneur Jésus-Christ, à construire, à bâtir. Si Dieu nous prête vie, on n'a pas fini. Et puis on a des projets. Et puis on va être béni dans ce que l'on fait. On est content d'avoir Philippe et Marie-Claire qui sont nos Josué et Caleb là-bas et qui nous. Qui espionnent et qui trouvent toutes les. Ils sont extraordinaires. Non, mais Dieu fait bien les choses. Dieu fait très, très bien les choses. Soyez paisibles, mes frères et sœurs. Soyez paisibles. Merci Jésus de nous encourager à être véritablement tes serviteurs, serviteurs du Dieu qui vit en nous. Merci Jésus, parce que tu n'es pas un Dieu loin. Merci parce que tu es un Dieu qui a choisi de vivre en nous. Merci parce que tu vis en moi, parce que tu vis dans mes frères et sœurs. Tu vis aussi dans chacun de ceux que je peux croiser, parce que tout ce qui a souffle de vie t'appartient. Aide-moi, Seigneur Jésus, à ne pas perdre mon temps, mais à faire ta volonté, à être rempli de discernement et de sagesse. Aide chacun à faire ta volonté aussi, avec discernement. Ne perdons pas son temps avec des gens qui cherchent toujours et qui dans leur cœur réellement, ne veulent pas trouver. Mais qui veulent simplement tuer le temps un moment, comme ceux qui allaient tuer le temps en allant voir Jean-Baptiste, en passant un bon moment avec lui, mais qui recommençaient leur vie comme avant. Permets que de moins en moins nous ayons des gens comme ça. Éloigne-les, tiens-les éloignés de nous, que nous puissions nous occuper de personnes qui ont véritablement quelque chose à faire avant ton retour. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu. Amen. Amen. On va demander aux musiciens de s'approcher. Dieu vous bénisse. Bon dimanche.